Chapitre 5. Max était à bout de nerfs.
Je refuse de rester ici plus longtemps. Il ne m'inspire pas confiance. Vous savez que j'ai raison, Richard. Quand l'iguane a sauté sur Benji, Archie n'a pas hésité une seconde à utiliser l'arme qu'il avait dans son sac. J'ai entendu un sifflement, et ce lézard est tombé raide, paralysé ou mort. Il aurait fait la même chose à n'importe lequel d'entre nous, si nous nous étions mal conduits.
Votre réaction est excessive.
Viens donc, nous sommes à leur merci.
Max, intervint Nicole. J'estime que nous devrions attendre de nous être calmés pour poursuivre cette discussion.
Non, je veux que tout soit réglé ce matin. C'est pour ça que j'ai demandé à Nye de prendre les enfants.
Vous ne désirez tout de même pas partir quand Éponine doit accoucher d'un instant à l'autre.
Bien sûr que non, mais j'estime que nous aurons intérêt à filer dès qu'elle sera en état de voyager. Seigneur, quel genre d'existence menons-nous ici? Nicky et les jumeaux sont morts de trouille. Je parie qu'ils refuseront de sortir de notre secteur à l'avenir. Et nous ne savons toujours pas pourquoi les Octos nous ont conduits là-bas. Vous avez vu toutes les créatures réunies dans ce stade? N'avez-vous pas eu l'impression qu'elles travaillent toutes pour nos hôtes, d'une manière ou d'une autre? Il est probable qu'ils trouveront bientôt un moyen de nous intégrer à leur écosystème.
J'ai confiance en eux, dit Ali, qui n'avait pas encore pris la parole depuis le début de cette discussion. Mais j'ai pris conscience qu'une mère doit permettre à son enfant de s'épanouir et d'être heureux. Je doute que ce soit possible dans la cité d'Émeraude.
Nicole la regarda, surprise. Tu souhaites donc partir toi aussi?
Oui, maman.
Nicole les dévisagea à tour de rôle. Les expressions d'Éponine et de Patrick indiquaient qu'ils partageaient le point de vue de Max et d'Ali.
Quelqu'un pourrait nous dire ce qu'en pense Nye?
Patrick rougit quand Max et Éponine se tournèrent vers lui.
Nous en avons parlé hier soir, dit-il finalement. Elle estime que les enfants sont trop isolés dans notre enclave, mais elle craint désormais qu'ils ne soient en danger si nous décidons d'aller vivre au milieu de toutes ces créatures.
La question est donc réglée,
dit Nicole en haussant les épaules.
J'en toucherai deux mots à Archie à la première occasion.
Nye était une bonne conteuse. Les enfants faisaient des bonds de joie quand elle interrompait un cours pour leur narrer une histoire. Le jour où Hercule était venu les voir pour la première fois, elle leur racontait des mythes grecs et chinois. Les jumeaux avaient baptisé ainsi l'octopode, après qu'il eût aidé leur mère à déplacer des meubles. La plupart de ces récits avaient un héros. Étant donné que même Nicky se souvenait des biotes humanoïdes du Nouvel Éden, les enfants s'intéressaient plus aux vies d'Albert Einstein, d'Abraham Lincoln et de Benita Garcia qu'aux exploits de personnages historiques ou légendaires qu'ils n'avaient jamais vus. Le lendemain de la fête de l'abondance, elle leur expliqua comment, à la fin du grand chaos, Benita Garcia avait utilisé sa célébrité pour aider les millions de pauvres du Mexique. Émue par le courage de celle qui s'était dressée contre l'oligarchie mexicaine et les multinationales nord-américaines, Nicky déclara que Benita Garcia était son héros préféré.
« Héroïne ?» la reprit Kepler. « Et toi, maman, avais-tu une héroïne préférée quand tu étais petite ?»
Et pendant 15 secondes, les souvenirs de Nye la renvoyèrent vers son enfance. Elle se revit, vêtue d'une simple robe en cotonnade, entrant nu-pied dans le temple bouddhique pour rendre hommage à la reine Shamatevi. Elle revit également les moines en robe safran et eut même l'impression de sentir l'encens qui brûlait dans le vihara devant la principale statue de Bouddha.
Oui, j'en avais une. La reine Shamatevi d'Aripunchai.
Elle était comme Benita Garcia, Madame Watanabe?
Demanda Nicky.
Pas tout à fait. C'était une belle jeune femme qui vivait dans le royaume des monstres, il y a un millénaire de cela. Sa famille était riche et noble, mais Shamatevi, qui était très instruite, rêvait d'avoir une vie exceptionnelle. Elle avait 23 ans quand un devin...
Un devin? Qu'est-ce que c'est, maman?
Voulut savoir Kepler.
Elle sourit. Quelqu'un qui prédit l'avenir ou essaie de le prédire. Pour en revenir au devin qui nous intéresse, il annonça qu'une belle femme noble du peuple des Monces traverserait la jungle jusqu'à Haripunchai, réconcilierait les tribus ennemies de cette vallée et fonderait un royaume dont la splendeur serait sans égale. Il raconta cette histoire lors d'un festin donné à la cour du roi des Monces. Chamatevi était présente et elle s'avança vers son souverain pour lui dire qu'elle pensait être cette femme. En dépit de l'opposition de son père, elle accepta l'argent, les provisions et les éléphants que lui offrait le roi. De quoi tenir les 6 mois que durerait le voyage à travers la jungle jusqu'à Haripunchai. Si la légende était infondée et que les populations de la vallée ne voulaient pas d'elle pour souveraine, elle ne pourrait pas revenir auprès des siens et devrait se vendre comme esclave, mais elle n'avait aucune crainte. Naturellement, les tribus la prirent pour reine, et elle régna de nombreuses années. Ce fut ce que les Thaïs appellent l'âge d'or d'Haripunchai. Devenue très vieille, elle partagea son royaume et le donna à ses jumeaux. Puis elle se retira dans un monastère pour remercier Dieu de l'amour et de la protection qu'il lui avait accordée. Elle garda un esprit et un corps sains jusqu'à sa mort à 99 ans.
Naï revoyait les fresques du temple de Lamphun représentant la vie de Chamatevi. Captivée par sa narration, elle n'avait pas remarqué que Patrick, Nicole et Archie s'étaient glissés dans la pièce et assis sur le sol derrière les enfants.
Nous racontons à nos juvéniles des récits comparables, déclara Archie quelques minutes plus tard. Ils sont pour la plupart très anciens. S'agit-il de pures inventions? Peu importe, dès l'instant où ces récits sont distrayants et instructifs. Je suis certaine que les enfants seraient ravis d'en entendre un,
dit Naï,
et les adultes aussi.
Archie resta muet près d'un niais. L'agitation du fluide de sa lentille frontale indiquait qu'il réfléchissait. Finalement, des bandes colorées défilèrent autour de sa tête. Nicole se chargea de les traduire.
Il y a longtemps, très longtemps, sur un monde lointain aux ressources abondantes et à la beauté indescriptible, tous les octopodes vivaient dans un immense océan. Sur Terre, on dénombrait d'innombrables formes de vie dont les...
Désolé, l'interrompit-elle.
Je ne vois pas comment traduire ce terme.
Archie fournit une autre définition.
Ceux qui ont créé avant. Entendu. Je les appellerai les précurseurs. De tous les êtres qui vivaient sur les parties émergées de cette belle planète, les plus intelligents étaient les précurseurs. Ils avaient fabriqué des véhicules qui volaient dans le ciel, explorer les mondes et les étoiles proches, et même découvert comment créer la vie. Leur science leur avait permis de modifier à leur guise les mers et les continents. Puis ils déterminèrent que les octopodes avaient des capacités qu'ils n'avaient jamais développées, et ils leur apprirent à utiliser leurs talents. Grâce aux précurseurs, les octopodes devinrent avec le temps la deuxième espèce intelligente de cette planète où tous vivaient en harmonie. Les précurseurs leur enseignèrent ensuite à vivre hors de l'eau en prélevant l'oxygène de l'air. Des colonies d'octopodes s'installèrent sur les continents. Un jour, les maîtres optimiseurs des deux espèces décidèrent que tous les octopodes devaient quitter leur monde sous-marin. Mais l'optimiseur d'une petite colonie des grands fonds n'approuva pas cette décision et ces octopodes continuèrent de mener une existence paisible au fond de l'océan. Ils ne se laissèrent pas fléchir par l'ostracisme dont ils faisaient l'objet, ni séduire par l'abondance qu'offraient les précurseurs. Ils vécurent ainsi pendant de nombreuses générations jusqu'au jour où un cataclysme frappa cette planète. Des millions d'êtres moururent, et seuls ceux qui résidaient sous les flots survécurent. Ce monde resta inhabitable pendant des millénaires. Puis, quelques octopodes marins s'aventurèrent hors de leur milieu. Ils ne trouvèrent aucun de leurs semblables et aucun précurseur. Leur optimiseur avait eu une prémonition heureuse. Sans lui, toute l'espèce aurait disparu. Voilà pourquoi, même de nos jours, les octopodes prévoyants veillent à entretenir leur capacité de vivre tant sur la terre que sous les flots.
Nicole avait compris dès le début de la narration que les propos d'Archie seraient très différents de ceux qui leur tenaient habituellement.
Parce que je lui ai déclaré que nous souhaitions regagner le Nouvel Éden après la naissance du fils des Puckett.
Elle n'aurait pu se prononcer, mais elle savait qu'il venait de leur faire d'importantes révélations sur son peuple.
C'est merveilleux, dit-elle. Je ne sais pas si les enfants ont aimé, mais...
C'était super,
affirma Kepler.
J'ignorais que les octos pouvaient vivre dans l'eau.
Comme les enfants dans le ventre de leur mère,
lui expliquait Naï quand Max se rua dans la pièce.
Venez vite, Nicole! Il n'y a plus que 4 minutes d'intervalle entre les contractions.
Elle se leva et se tourna vers Archie.
Pourriez-vous demander au docteur Bleu de nous rejoindre avec l'imagier et ses quadroïdes le plus rapidement possible?
Assister à une naissance de l'intérieur et de l'extérieur était fascinant. Nicole fournissait des instructions à Éponine et à l'imagier par l'entremise du docteur Bleu.
« Respirez à fond entre chaque contraction !»
criait-elle à Éponine.
« Rapprochez-les, plus bas, et augmentez l'éclairage !»
disait-elle au docteur Bleu. Richard se tenait à l'écart et regardait tour à tour les deux octopodes et les images projetées en léger différé sur le mur. L'écran s'éteignait à la fin de chaque contraction et le docteur Bleu remettait à Nicole un petit tampon qu'elle plaçait dans l'entrejambe de la parturiente. Les quadroïdes expulsés se ruaient vers cet abri pendant qu'une nouvelle équipe s'engouffrait dans le vagin. Après les 20 secondes nécessaires au traitement des données, de nouvelles vues apparaissaient sur le mur. Seul Max rompait leur concentration. Sitôt qu'il entendait sa femme hurler, il se précipitait à son chevet pour lui tenir la main et crier à Nicole.
« Elle souffre! Faites quelque chose pour la soulager, bon sang !»
Et quand Éponine se levait afin que la gravité artificielle pût contribuer à la descente du bébé, il s'affolait encore plus. L'image de son fils coincé dans le col de l'utérus l'incitait à hurler.
« Oh mon Dieu! Regardez! Regardez !»
Et après une contraction encore plus violente,
« Sa tête! Elle est écrasée! « Merde, il n'a pas assez de place, il passera jamais !»
Nicole prit 2 décisions importantes quelques minutes avant la venue au monde de Marius Clyde Puckett. Consciente qu'il ne pourrait naître sans aide, elle opta premièrement pour une épisiotomie et deuxièmement pour l'expulsion du futur père avant qu'il ne devînt hystérique. À la demande de Nicole, Ali stérilisa le scalpel que Max regarda en ouvrant de grands yeux.
À quoi ça va servir ?
N'y voyez rien de personnel, Max. Mais vous devez sortir, je vous en prie. Ce que je vais faire est sans danger, mais ce ne sera pas beau à voir.
Il ne bougea pas. Patrick vint poser la main sur son épaule à l'instant où Éponine gémissait de nouveau. La tête du bébé exerçait une pression contre la vulve. Nicole l'incisa. Éponine hurla.
Non !
Cria Max à la première goutte de sang.
« Non ! Oh merde ! Oh merde ! » !»«
Dehors !»
lui intima Nicole en terminant l'épisiotomie. Ali épongeait le sang aussi vite qu'elle le pouvait. Patrick entraîna Max vers le séjour. Nicole regarda l'image sitôt qu'elle apparut sur le mur. Marius était orienté dans le bon sens.
Quelle technique formidable ! S'enthousiasma Nicole. Mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Une autre contraction débutait.
Cette fois, je crois que c'est la bonne. Poussez de toutes vos forces, jusqu'à la fin.
Elle informa le docteur Bleu qu'elle n'aurait plus besoin des services de l'imagier.
Poussez !
Crièrent Nicole et Ali à l'unisson. Le sommet de la tête apparut avec quelques mèches de cheveux châtains.
Encore ! Poussez plus fort !
Je ne peux pas !
Gémit Éponine.
Si, vous le pouvez ! Poussez !
Éponine se cambra, inspira, et un instant plus tard, Marius se retrouva entre les mains de Nicole. Ali utilisa ses ciseaux pour couper le cordon ombilical. Le garçon pleura sans qu'il fût nécessaire de l'y inciter. Max se précipita dans la pièce.
« Votre fils est arrivé parmi nous !»
lui dit Nicole. Elle l'essuya, ligatura son cordon et le remit au père ivre de fierté.
« Seigneur, Seigneur, que dois-je faire à présent ?»
Il tenait le nouveau-né comme s'il était aussi fragile que du cristal et précieux que des diamants.
Lui donner un baiser serait un bon début,
suggéra Nicole en souriant. Max s'exécuta.
Et tu pourrais le montrer à sa mère,
dit Éponine. Elle pleura de joie lorsqu'elle vit son fils. Nicole aida Max à le déposer sur la poitrine de son épouse.
Oh, Éponine, je t'aime tant.
Marius, qui hurlait depuis sa venue au monde, se calma sous les caresses de sa mère. Puis Max prit conscience qu'il devait remercier toutes les personnes présentes et il les étreignit tour à tour pendant 5 bonnes minutes. Même les octopodes ne purent se soustraire à cette démonstration d'affection.